La grossesse est un moment unique dans la vie. Et c'est aussi le moment où l'on se demande comment concilier vie personnelle et vie professionnelle. Durant 9 mois, je vais t'accompagner avec des témoignages inspirants qui te donneront des clés concrètes pour vivre sereinement ta grossesse, ton postpartum et la reprise du travail. Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Marvin, sage-femme et Estelle, coach en vie professionnelle et personnelle. Nous avons abordé la thématique du retour à la maison avec son bébé. Nous allons avoir le point de vue de la coach, mais aussi du sage-femme sur comment ménager sa maison, qui contacter pour le suivi de bébé, comment se faire accompagner pour son allaitement. Bonne écoute. Bonjour Marvin, merci d'avoir accepté mon invitation au micro de Mininou. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie ?
Ouais, bonjour Pauline, merci de m'accorder un petit peu de temps pour pouvoir discuter maternité. Je m'appelle Marvin, effectivement, j'ai 27 ans et je suis sage-femme dans 7 mois, si tout se passe bien. Je passe mon diplôme de sage-femme à l'école de Rennes. Et puis, à côté de ça, j'ai fait des études pour... j'ai fait un master 1 en double cursus pour pouvoir spécialiser dans les violences faites aux femmes, pour pouvoir me spécialiser après dans ma carrière sur cette thématique. Ça fait 10 ans que je suis sur Rennes et je suis de région parisienne, sinon.
Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique du retour à la maison avec son bébé. Comment aménager sa maison et se simplifier la vie quand on rentre avec son bébé de la maternité où on a été un petit peu dans un cocon où il y avait plein de personnes et de professionnels pour nous accompagner?
Effectivement, à la maternité, savoir qu'il y a plein de types de séjours différents à la maternité. Un séjour classique, donc sur un accouchement dit voix basse, on est sur 3-4 jours. Un séjour classique sur un accouchement dit voix haute, donc par césarienne, on est sur 4, 5, voire 6 jours. Donc déjà, l'accompagnement est un petit peu différent parce qu'il y a une différence sur cette durée. Et puis, finalement, sur un accouchement voix basse, je prends le cas un peu le plus fréquent, 3 jours, c'est quand même à la fois long et à la fois pas tant, où ça passe très vite parce que la première journée, on débarque un peu. Et effectivement, il y a plein de professionnels toute la journée, toute la nuit même, qui sont là pour vous accompagner, pour vous accompagner sur les questions qui vous concernent, sur votre corps, etc., qui concernent votre bébé aussi, sur sa santé, et puis l'allaitement aussi, sur les allaitements maternels ou alors les biberons, qui demandent beaucoup d'investissement personnel et qui imposent beaucoup de questions, et c'est normal. Et à la maternité, effectivement, il y a cette disponibilité des professionnels qui n'est pas forcément celle qui aura à la maison, et donc ça peut être un petit peu déstabilisant, effectivement. Donc il y a le côté cocooning de la maternité qui se retrouve pas tout le temps à la maison. Par contre, après, comment organiser son quotidien lorsqu'on revient à la maison, c'est des choses qui s'organisent un petit peu et qui peuvent s'anticiper autant que faire se peut. On peut pas tout anticiper, mais on peut anticiper certaines choses. Finalement, on se rend compte lorsqu'on interroge les professionnels qu'il y a une disponibilité aussi qui peut être mise en place de professionnels de périnatalité après la naissance et à la maison. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément conscience. Il y a tout, par exemple, les services de PMI, de protection maternelle et infantile, où tout le monde n'a pas connaissance de ce qu'est la PMI, je pourrais y revenir. Il y a des consultations qui peuvent être mises en place donc à la sortie de la maternité, qui permettent d'avoir un lien avec des professionnels pour poser des questions. Justement, cette PMI, il peut y avoir des visites à domicile, il peut y avoir des visites à domicile avec les sages-femmes également, pour pouvoir vous aider à répondre à vos questions sur le quotidien. Rien que la prise de rendez-vous, c'est des choses qui peuvent s'anticiper, entre guillemets, sur savoir qui je dois aller voir après l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe, en fait, simplement après l'accouchement? Parce que il y a beaucoup de préparation à la naissance, mais c'est vrai que la préparation sur le postpartum, sur ce quatrième trimestre, il y en a assez peu.
C'est vrai. Complètement d'accord avec toi. Et alors, qui est-ce que je dois contacter, concrètement?
Du coup, après ce séjour à la maternité, il va y avoir une visite qui peut être mise en place par une sage-femme ou justement par la PMI, par exemple. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je vous ai parlé du séjour classique, avec la durée théorique classique. Il peut y avoir des retours à la maison qu'on appelle un petit peu précoces, qui peuvent être aussi demandés, si l'état de santé de la maman et du bébé ben, sont optimales pour pouvoir sortir. Il n'y a pas forcément de raison de rester ces 3-4 jours ou ces 5-6 jours. On peut prendre ces jours parce que ça peut être aussi l'occasion de poser toutes ces questions et d'être accompagné, mais on peut aussi sortir un petit peu plus tôt et faire ce qu'on appelle un retour à domicile précoce, et donc pas forcément attendre ces 3 jours, mais pouvoir sortir au bout de 48 heures, donc de 2 jours à la maison. Et donc là, ça impose aussi un suivi un petit peu différent que si on sort sur les 3-4 jours prévus. Parce que si on sort de façon donc précoce, c'est des choses qui s'organisent avant, qui sont dites à la maternité. C'est important de s'être organisé et d'avoir une sage-femme qui peut venir à la maison dans les 24 heures pour pouvoir bah, vous voir, vous faire, faire le point et voir votre bébé, peser votre bébé. Et voilà, c'est une organisation qui est un petit peu différente. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose de national, hein, c'est ce qu'on appelle le PRADO, le programme de retour à domicile. Qui a pris des formes plus ou moins différentes suivant les régions et suivant aussi la période avec la Covid où il y a eu des adaptations. Voilà, donc ça, c'est une organisation à discuter pendant votre grossesse. Savoir que les visites pour vous, ça peut être cette sage-femme-là, ça peut être aussi donc, du coup, le médecin traitant qui vous a suivi, et ça peut aussi être un obstétricien qui a suivi votre grossesse, qui peut faire votre suivi après. Il y a une visite qui fait partie des consultations classiques que vous avez eues pendant une grossesse, il y a une dernière consultation pour clôturer un petit peu cette grossesse, c'est la consultation postnatale, qui est à faire pour vous 6 à 8 semaines après la naissance. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être réalisées avec la sage-femme qui vous a suivi et qui peuvent être anticipées, justement parce que toutes les sages-femmes ne le font pas, parce que plein de sages-femmes libérales font des suivis comme elles ont envie. En fait, suivant leur organisation. Donc vous pouvez effectivement poser la question à la sage-femme qui vous suit, tiens, tu vas me suivre toute ma grossesse, est-ce que tu fais les visites postnatales, et est-ce que tu viens à domicile. C'est des choses qui peuvent être aussi discutées. C'est le cas aussi pour les médecins traitants, tu me fais mon suivi, est-ce que tu me suis également après pour cette visite postnatale. Il y a 2 visites qui sont prises en charge à domicile par l'assurance maladie, qui sont prises en charge à 100%. En fait, la prise en charge à 100%, elle est à 12 jours, il me semble, après la naissance. Après, c'est une prise en charge classique. 70, enfin, voilà, c'est une prise en charge classique. En tout cas, les 12 jours qui suivent la naissance, c'est une prise en charge à 100%. Sur ces 2 visites dont je vous parle, 2 visites qui peuvent être faites à domicile par une sage-femme. Et puis, du coup, il y a cette PMI. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être anticipées. Regardez, en fait, on dépend d'une PMI suivant la localisation géographique de notre habitation. Donc ça peut être intéressant de se dire, tiens, je dépends de quelle PMI aller me présenter. Et la PMI peut, du coup, envoyer une auxiliaire de puériculture ou une infirmière puéricultrice qui vient vous voir aussi à la maison. Et ou alors, vous pouvoir vous déplacer dans ce centre de protection maternelle et infantile. Je démystifie un petit peu cette parce que c'est vrai que l'appellation peut parfois faire peur. La PMI, c'est en fait, on peut voir ça comme un lieu avec un ensemble de professionnels de santé, mais pas que, qui sont là pour vous accueillir et pour répondre à vos questions, pour vous accompagner, que ce soit pendant la grossesse et après l'accouchement. En fait, dans cette PMI, il peut y avoir des psychologues, des assistantes sociales, des médecins traitants, des gynécologues, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des consultantes en lactation. Et donc, voilà, c'est un lieu qui est aussi rassurant dans le sens où tout le monde est présent au même endroit et ça a un côté un peu pratique.
Oui, parce qu'on peut même faire peser son bébé en PMI.
Tout à fait, on peut faire peser son bébé en PMI. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui peuvent être un petit peu anticipées pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me correspond le mieux, quels sont les numéros, puisque c'est, vous allez voir, à la maternité, sur ces 3 jours, il va y avoir énormément d'informations. Donc c'est vrai que se dire, bah, en plus, oh là là, il faut que j'appelle tel numéro, il faut que je cherche sur Internet, c'est des choses, voilà, sans forcément... On ne peut pas prévoir de rendez-vous puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va accoucher précisément, mais on peut se dire, voilà le numéro, voilà l'adresse, une fois que la naissance est arrivée, voilà comment je m'organise, voilà, on peut faire, pour les personnes qui sont très organisées, un petit planning prévisionnel. Non mais ça peut être intéressant d'avoir au moins les numéros et de ne pas se retrouver en plus avec cette charge mentale. Alors qu'à la naissance, il y aura déjà beaucoup de choses à penser. Et puis, pour votre bébé, effectivement, il y a les visites médicales classiques avec un pédiatre ou alors avec un médecin traitant qui est spécialisé dans le suivi pédiatrique. Ils ne le font pas tous. Ils ne sont pas tous à l'aise avec le suivi des nouveau-nés. D'une part, il y a ce côté-là. Et d'autre part, il y a des médecins traitants qui ont un diplôme spécifique de suivi pédiatrique. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être aussi vues avec votre médecin traitant et voir les pédiatres aussi. Est-ce que ce pédiatre qui habite à côté de chez moi prend des nouveaux patients? Oui, non. Sinon, je switch et je regarde. Voilà, c'est des choses qui peuvent être regardées un petit peu avant pas de prise de rendez-vous avant évidemment, mais un coup de téléphone pour dire bah, est-ce que voilà, est-ce qu'il y aurait cette disponibilité-là. Moi, mon terme, il est à ce niveau-là. J'aurais besoin d'un suivi pour cette consultation. C'est une consultation avec un médecin qui va se faire entre 6 et 10 jours. Donc, on parle souvent de la consultation du 8e jour avec le premier certificat médical en dehors de la maternité pour votre bébé. Donc, voilà, il y a plein de choses à prévoir et c'est des choses qui peuvent être plus ou moins dégrossi un petit peu avant la naissance. Et puis il y a aussi pour certaines situations, alors classiquement on parle de situations de vulnérabilité, mais aujourd'hui on est presque toutes dans des situations de vulnérabilité à partir du moment où on a des questions et des doutes. Il y a la mise en place de TISF qui peuvent être mises en place. C'est des techniciens qui sont spécialisés dans le service de famille et qui, suivant certains départements, en fait, sont pris en charge. Mais ce n'est pas partout.
Ils font quoi ?
En fait, ils accompagnent sur l'organisation du quotidien. Ils accompagnent sur le mobilier, quel mobilier, comment s'organiser. Ils peuvent accompagner aussi, si on a plusieurs enfants, sur voilà, comment s'organiser sur le mode de garde. En fait, c'est des conseillers qui ont... Alors, c'est pas connu du tout. Ouais, c'est très peu connu. Précisément, les TISF, c'est les techniciens de l'intervention sociale et familiale. C'est des choses qui sont mises en place sur des situations de vulnérabilité sociale, sur des situations précisément, ça peut être aussi mis en place sur, comme je vous disais tout à l'heure, des doutes, et ils sont là pour favoriser le lien mère-enfant. Encore une fois, sur certains départements, ils ne sont pas tous pris en charge dans ces consultations. C'est des grosses consultations, en fait, c'est des temps de 4 heures à chaque fois. Et donc, c'est, voilà, ça, on peut se renseigner aussi sur le département dans lequel on vit, auprès de...
On tape...
Les TISF sur son département, avec... il peut y avoir des informations aussi sur les agences régionales de santé, les ARS, sur ce qui est possible de faire ou pas. Et du coup, voilà, c'est des professionnels qui sont consacrés, du coup, à cet accompagnement périnatal. C'est des choses qui sont presque obligatoires sur... C'est pour ça qu'en fait, on n'en parle pas, parce que c'est un peu stéréotypé, un peu... ils ont une image qui leur colle à la peau. C'est des professionnels qui sont très souvent mis en place sur des mamans qui ont des difficultés, mais liées à, par exemple, à un handicap, ou handicap moteur, handicap en général sur des difficultés. C'est pour ça que je parlais de situations de vulnérabilité. Maintenant, ça s'est beaucoup plus lissé, cette définition-là. Et une maman qui a des difficultés ou qui ressent des difficultés sur l'organisation de son quotidien rentre complètement dans l'objectif de ces métiers-là, de ces techniciens-là. Maintenant, encore une fois, voilà, il faut s'enseigner sur ce qui est fait dans le département. Il y a des départements qui sont très bien desservis en TISF et d'autres non. Donc, c'est des personnes ressources qui peuvent être assez intéressantes aussi. Je voulais mettre un
petit... Mais complètement. Ouais. Mais je pense qu'en plus, ça peut aider des parents ou des mamans qui sont, comme tu dis, un peu vulnérables. Oui et non, parce que si on a des doutes et qu'on se demande comment si sa maison est OK pour son bébé, ouais. Au moins ça enlève d'un poids, je pense.
Tout à fait. Voilà. Et puis bah, ça, c'est, voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place. C'est des questions qui peuvent être posées pendant les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Il ne faut pas oublier que les cours de préparation, les 7 cours de prépa pendant la grossesse, sont classiquement, historiquement, des cours de préparation à l'accouchement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cette définition-là. On parle vraiment de préparation à la naissance et à la parentalité. La parentalité, ce n'est pas uniquement l'accouchement, c'est comment être parent, comment se positionner en tant que maman et comment la parentalité s'organise dans son quotidien dans la maison, dans nos trajets, dans les modes de garde, dans
vie plein pro, de choses. Vie perso.
Voilà, la vie perso, la vie professionnelle, toutes ces choses-là, comment être parent simplement. Quoi.
Et je pense que c'est bien. Parce que l'accouchement, c'est une étape. Après, la plus longue, c'est la parentalité, mine de rien.
Tout à fait, tout à fait.
Et si on choisit d'allaiter, comment se faire accompagner ? Parce qu'on sait que la mise en place de l'allaitement peut commencer dès la maternité. Et souvent, on est accompagné, surtout si c'est un premier allaitement. Alors, allaitement, je sais que allaitement, c'est si on tire son lait et qu'on le donne à son enfant, on allaite aussi. Donc là, on peut aborder les deux cas, le tire-allaitement ou l'allaitement classique, entre guillemets.
Alors effectivement, l'allaitement, c'est également une vaste question pleine de doutes, en ce sens aussi où à chaque fois qu'on va demander un avis ou un conseil, il va être différent, suivant si on écoute notre voisine, notre amie, notre maman, notre sœur, notre professionnel de santé. Et donc c'est en ça que c'est pas évident à se retrouver. sur l'allaitement. Tout le monde y va de son expérience, tout le monde y va de ses a priori, parfois même on impose notre vision des choses.
Le mot injonction me venait.
Oui. Mais tu peux le sortir parce qu'effectivement il est présent. Et sur l'allaitement, c'est assez. Assez flagrant, et donc c'est pour ça que c'est important de confronter effectivement toutes ces expériences-là, mais pas de se comparer à ces expériences. En fait, il faut les prendre, il y a à prendre et à laisser dans ces expériences-là, et il faut surtout s'écouter, du coup, sur ce qui nous convient ou pas. Ces questions-là, elles peuvent être abordées, ces préparations à la parentalité, sur comment moi j'ai envie de nourrir mon enfant. Déjà, il y a aussi une injonction sur l'allaitement maternel, mais c'est autre chose. En tout cas, si le choix est fait d'allaiter son enfant par soit le sein, effectivement, ou par le tire-lait, ces expériences-là sont aussi enrichissantes pour pouvoir se dire, tiens, ça ne me correspond pas, ça me correspond, pourquoi pas. Ensuite, à la maison, effectivement, déjà, à la maternité, c'est un moment où vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Bon, pareil, suivant les équipes, parfois, il y a des discours qui sont un petit peu différents. Maintenant, il y a une volonté pour les équipes médicales dans les hôpitaux d'avoir une uniformité dans le discours sur l'allaitement. Il y a des hôpitaux maintenant avec des labels, des labels IHAB, c'est des labels qui promuent en fait l'allaitement maternel et qui ont des formations spécifiques pour pouvoir justement avoir une uniformité dans le discours. Ça existe. Du coup, voilà, pas hésiter sur ces 3-4 jours à poser toutes les questions sur l'allaitement. Et puis, c'est surtout sur cette période où il y a la montée de lait, donc où il y a plein de choses un petit peu différentes qui vont se passer à la maison, parce qu'à la maison, il y aura plus ou moins la montée de lait qui sera déjà mise en place. Donc, c'est une organisation un peu différente de la maternité. Et puis, à la maison, du coup, il y a plusieurs personnes ressources. Finalement, les mêmes personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, du moins les sages-femmes et les infirmières puéricultrices surtout, et les auxiliaires de puériculture, qui sont disponibles, donc soit à la PMI si vous voulez vous déplacer, ou soit en visite à domicile. Les sages-femmes sont, de par un cursus, un socle commun formé à l'allaitement. Maintenant, il y a des sages-femmes qui sont plus ou moins à l'aise avec l'allaitement maternel. Et il y a des sages-femmes qui ont un diplôme en plus d'allaitement maternel, un diplôme universitaire d'allaitement maternel.
Ce sont les conseillères en lactation ?
Alors, il y a les conseillères en lactation. Effectivement, c'est une petite nuance, c'est que les sages-femmes, c'est un diplôme universitaire d'allaitement. C'est-à-dire qu'il y a plein de diplômes universitaires. Et effectivement, avec ce diplôme universitaire, on peut faire des consultations en lactation. Par contre, il y a vraiment un diplôme spécifique de consultante en lactation. Qui peut être du coup passé par une pharmacienne, qui peut être passé par une auxiliaire de puériculture, qui peut être passé par une infirmière de puériculture, puéricultrice. Et donc effectivement, ça rentre aussi en compte sur les consultantes en lactation. Mais ce DU, ce diplôme universitaire pour les sages-femmes, c'est une spécialité en plus. C'est pas les mêmes modalités, mais il y a ce discours qui sera uniforme. Et les sages-femmes peuvent aussi passer ce DU s'ils veulent, mais en plus aussi ce diplôme de conseillère en lactation spécifique commun à tous les praticiens en France. Et donc effectivement, c'est un diplôme qui est très très solide parce qu'il impose une expérience précise en termes de temps, d'accompagnement. Il y a vraiment quelque chose, en plus des apports théoriques, il y a un côté pratique sur ce diplôme qui est important pour le valider, donc c'est vraiment très solide en fait. C'est consultante en lactation, et elles sont aussi spécialisées lorsque les allaitements se passent pas forcément comme on l'aurait souhaité, pour X ou Y raisons, des choses qui peuvent nous échapper, quand il y a des engorgements, quand il y a des choses qui ne sont pas prévues. Et puis sur l'organisation, effectivement, quand tirer son lait, comment tirer son lait, comment le donner, comment le conserver, les consultantes en lactation sont des personnes ressources très très importantes. Maintenant, effectivement, elles ne sont pas prises en charge financièrement dans le parcours médical classique. Par contre, certaines mutuelles, encore une fois, les prennent en charge. Donc c'est important aussi de se renseigner sur ce qui est possible par sa complémentaire, ce qui est possible d'organiser ça. Ça peut se faire en amont, quand on a un petit peu le temps pendant la grossesse, pour pouvoir préparer un peu tout ça et pas se retrouver au moment où il y a la difficulté de pouvoir faire appel à X ou Y personnes. Voilà, c'est important d'avoir moi, ce que je conseille, c'est de faire un petit carnet et puis d'avoir ces professionnels avec les numéros de noter comme ça et de savoir quelle personne je peux appeler. Et ces consultantes en lactation, effectivement, elles sont disponibles. Il y a certaines maternités où il y a des consultantes dans la maternité qui peuvent être vues pendant ces 3-4 jours et qui, du coup, vous faites partie du parcours avec elles, vous avez commencé un entretien. Et donc, beaucoup plus facile à mettre en place aussi après un deuxième entretien parce qu'elles vous avaient déjà vu à la maternité, etc. Parce que parfois, il peut y avoir des problèmes, enfin, il peut y avoir des difficultés dans la mise en place de l'allaitement parce que je prends n'importe quoi comme exemple, mais un accouchement un petit peu plus difficile, c'est-à-dire avec des instruments, par exemple l'utilisation de cuillères ou autre chose, qui font que c'est un petit peu plus douloureux. Et ben, les positions vont être différentes parce qu'on ne peut pas se mobiliser de la même manière. Donc il y a des choses qui doivent être adaptées, qu'on ne peut pas prévoir et doivent être adaptées pour la mise en place de cet allaitement. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place à la maternité, et du coup c'est important d'avoir cette continuité quand la consultante en lactation est présente à la maternité. C'est chouette d'avoir du coup ce lien, et elle connaît votre histoire, elle connaît votre parcours d'accouchement, donc ça peut être aussi intéressant de se renseigner si dans la maternité dans laquelle vous allez accoucher il y a ces consultations de lactation.
Là c'est une question plus pour la maman.
Ouais.
Combien de temps quand on rentre chez soi on saigne?
Ouais.
Parce que ça, c'est à la mater, on a tous vu des photos avec les culottes filées et puis les grosses serviettes.
Ouais.
Combien de temps on les garde? Ça doit dépendre.
Alors, ça dépend, effectivement. Mais c'est une question très intéressante parce que c'est source de questionnement et d'angoisse pour beaucoup de femmes. Donc, c'est important d'avoir quelques mots sur cette thématique, effectivement.
Parce que comme tu dis, dans les cours de préparation à l'accouchement et la parentalité, on en parle très peu de tout ça, de tout ce qui se passe après, que ce soit les saignements, les hémorroïdes, les tranchées. Enfin, tout ça sont vite évoqués ou pas évoqués du tout même. Ouais. Et c'est vrai qu'on des fois, on rentre chez soi, on est seul avec son bébé et puis on a les saignements.
Tout en même temps.
Voilà, tout. Les tranchées, une hémorroïde qui apparaît, on ne sait pas pourquoi.
Voilà. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est à améliorer, il y a des pistes qu'il faut améliorer sur ces cours-là, effectivement, parce qu'on est plus aujourd'hui sur une quête personnelle d'information sur ces choses-là. Alors, les saignements, c'est normal de saigner après un accouchement, que ce soit un accouchement par voie basse ou par voie haute. Il y a des saignements qui peuvent être présents et qui sont présents les 3-4 premiers jours, donc pendant votre séjour à la maternité. Ils sont majorés un petit peu les premiers jours parce qu'il y a aussi ce côté où on est beaucoup allongé et lorsqu'on se mobilise, il y a aussi le côté pesanteur, le côté où voilà, le sang qui ne peut pas s'évacuer lorsqu'on est allongé, s'évacue un petit peu plus lorsqu'on se met debout, donc ce qui donne une impression aussi de saigner un petit peu plus. C'est souvent la même chose que souvent on compare à la quantité des règles habituelles, un peu plus abondante, mais il ne faut pas que ça soit hémorragique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça remplisse une protection, il ne faut pas que vous changiez une protection toutes les heures. Parce que là, voilà, il y a aussi ça à voir, c'est qu'effectivement, parfois, on peut saigner beaucoup. Et il faut se dire, quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que c'est pas normal. Donc, effectivement, les premiers jours, on peut saigner beaucoup. Mais on est à la maternité, il peut y avoir ce côté pesanteur. Et peut, en fait, si vous voulez, l'utérus fait la taille d'une mandarine, en dehors de l'obstétrique, en dehors de la grossesse. Et donc, un bébé, ça fait 35, entre 35 et 50 cm. Donc, il faut passer 30 voilà, votre utérus est distendu jusqu'à 50 cm. Donc, il faut pouvoir passer de ces 35-50 cm à la taille d'une mandarine. Donc, il y a les contractions, c'est les tranchées dont tu parlais tout à l'heure, qui sont présentes après l'accouchement. Donc, effectivement, ces contractions-là, elles sont ressenties plus ou moins différemment par les femmes, mais elles sont très importantes les premiers jours. C'est pour ça que les saignements sont beaucoup plus importants les premiers jours, parce qu'il y a cette contraction qui fait qu'il y a une très très grosse différence de taille les premiers jours. Voilà, dès que le placenta sort, dès que votre bébé et le placenta sort, tac, l'utérus se contracte pour pouvoir reprendre sa taille initiale. Et donc, pour reprendre sa taille initiale, il va mettre plusieurs semaines. C'est pour ça que tant qu'il n'a pas repris sa taille initiale, donc les contractions continuent à arriver, et bien il y a des saignements. Donc les saignements, ils ne s'arrêtent pas à la maternité. Ils sont majorés à la maternité parce que c'est là où il y a la plus grosse différence de taille. On passe de 50 cm à la taille d'un gros point. Et après, il continue puisqu'il va continuer de régresser et de prendre sa taille normale. Et ça peut durer pour certaines femmes jusqu'à 4 semaines, 5 semaines. Ce qui est important de voir, c'est que dans la majorité des cas, il diminue. Ça doit être presque obligatoire, il doit y avoir une diminution hein, des saignements. Et puis il y a, comme quand on se fait un bleu, une différence de couleur dans ces saignements-là qui peut aussi apparaître. Au début, c'est souvent rouge vif, après ça passe un petit peu par du rosé, et puis on est après sur du brun jaune. C'est du sang qui cicatrise, du sang qui indique aussi qu'on est sur la fin des saignements. Et donc effectivement, ça peut durer jusqu'à 4 voire 5 semaines. Un peu comme des spottings aussi, qu'on peut avoir lorsqu'on est sous contraceptif, où c'est des petits points de saignement qui peuvent être quotidiens. Donc après, porter le super slip filet de la maternité et les protections, il n'y a aucune obligation, déjà dans le sens où il n'y a aucune obligation de les porter à la maternité.
Mais tu portes quoi ?
Tu peux porter ce que tu as envie de porter. Après, elles ont un côté très pratique, parce qu'elles sont jetables et elles sont très...
Tu parles des culottes ouais, sinon de règles ou super... des choses comme ça ?
Ouais, tu peux... Voilà, ou tu peux...
Sinon, je vois pas. Ouais, bah, ou rien du tout.
Ou rien du tout, tu peux porter.
Il y a des gens qui.
Ah bah oui. Ou rien du tout. Juste une robe de chambre.
Rien du tout.
Bah non, il y en a pas beaucoup.
C'est pour ça que vous mettez en dessous.
Un petit carré.
Non,
c'est vrai, il y a des femmes qui préfèrent ne rien porter du tout. Ou alors porter leur propre sous-vêtement qu'elles ont acheté.
Mais avec une protection.
Avec une protection, ouais. sur ces ouais, tout à fait. Mais ouais, tu rigoles, mais il y en a beaucoup qui. Ce slip filet est très... j'en veux pas, en fait. Je veux pas du tout de ce slip filet.
Moi, j'avais pas de slip filet, mais je portais quelque chose... Enfin, une protection.
Oui. Tu vois. Ouais.
Ouais. Mais sans rien du tout, ça, j'aurais pas pu.
Ouais, bah après...
Ouais, oui, chacun.
Ouais. Mais,
je juge pas.
Mais non, mais c'est vrai que après il y a aussi la mobilisation. Il y a certaines femmes qui se mobilisent beaucoup moins, donc qui restent un peu plus allongées. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. En tout cas, voilà, à la maison, ces protections, c'est aussi comment vous organisez dans votre quotidien depuis le début de votre vie gynécologique quand il y a des saignements. Effectivement, on est un peu sur ce même acabit sur les suites de naissance, dans le sens où par définition, les saignements peuvent durer jusqu'à 4-5 semaines pour certaines femmes. Donc effectivement, il peut y avoir une nécessité, un besoin pour le confort ou pour d'avoir ces protections. Maintenant, les slips de la maternité, oui ou non, ça, il n'y a aucune obligation. Ils ont un côté pratique parce qu'ils sont très élastiques et très... ils sont pratiques, ils ne sont pas beaux, mais ils ont ce côté pratique et ils sont jetables. Il y avait des soucis pour des questionnements d'écologie aussi sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, ces saignements se tarissent au bout de 4-5 semaines pour certaines femmes. Il faut savoir aussi que ce qu'on appelle, ce qui n'est pas très élégant, mais ce qu'on appelle le retour de couche, donc c'est quand est-ce que notre cycle se remet en place, on est sur du de 40, 41, 42, 42 jours à peu près. Et donc par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle le petit retour de couche qui est aux alentours du 15e jour. Ça arrive ou pas, mais souvent ça arrive, ça correspond les saignements vont commencer à diminuer et puis paf, au bout du 15e jour à peu près, il y a un tout petit peu plus de saignements. Ça peut correspondre du coup à la cicatrisation du placenta qui laisse un petit filet un peu plus abondant. Ça peut arriver. Donc, okay. Parfois, c'est un peu surprenant parce que on est sur une dynamique un peu descendante de je commence à perdre de moins en moins de sang. Et puis, au bout du 15, 16, 17e jour, tac, il y a un peu plus de sang. Donc, souvent, c'est source de consultation et de questionnement. Donc, ça peut arriver et c'est totalement normal. Et donc, il faut savoir qu'effectivement, le retour de son cycle arrive à peu près au 42e jour. C'est pas précis comme une montre, mais en tout cas, c'est décrit comme ça sur les cycles biologiques, physiologiques. Et il faut savoir qu'on peut, ça c'est un petit aparté, mais retomber enceinte, re-avoir une grossesse à partir d'une vingtaine de jours. Donc voilà, par rapport à son cycle, l'ovulation reprend une vingtaine de jours après la naissance. Donc c'est des choses qui sont aussi en lien avec tout ça. Et ça, c'est mon petit côté sage-femme. Effectivement, si les saignements ne se tarissent pas, deviennent un peu plus abondants, restent rouges, ont une odeur particulière, différente de d'habitude, ça peut être des signes d'endométrite, donc d'infection utérine qui impose une consultation. C'est des choses qu'il faut faire attention si c'est associé avec de la fièvre et des pertes de sang assez abondantes,
okay.
Différentes de ce que je viens de décrire. Une consultation d'urgence.
Ok, ouais. D'urgence, oui. Mmh. Que faire si on a des hémorroïdes ? J'en parlais dans ma petite question,
qui est assez longue. Oui, c'est vrai, il y avait ce côté-là aussi. Alors les hémorroïdes, effectivement, Alors ça peut apparaître pendant la grossesse, ça peut apparaître au moment de l'accouchement et après, effectivement, l'accouchement. Et puis il y a des femmes et des hommes qui ont des hémorroïdes dans leur vie, en général. Il peut y avoir des poussées, des crises hémorroïdaires en dehors d'un contexte obstétrical. En fait, simplement, les hémorroïdes, il faut savoir que la région autour de l'anus, donc périanale, est fournie en ce qu'on appelle les plexus veineux, donc avec énormément de réseaux veineux. C'est une zone qui est très, très vascularisée. Et un hémorroïde, c'est quoi ? C'est une veine qui se dilate. Voilà, c'est vraiment ce côté mécanique où le sang stagne et donc forme une hémorroïde où la veine grossit, devient un petit peu plus dure et devient un petit peu plus douloureuse. Alors soit ils sont externalisés, donc soit ils sont en dehors de l'anus, soit ils sont à l'intérieur. Donc ils sont aussi source de gêne, on ne les voit pas, mais on peut avoir des hémorroïdes à l'intérieur de l'anus sans qu'ils se voient. Et qui peuvent être du coup source de gêne autant que les hémorroïdes qui sont extériorisées. Souvent, les hémorroïdes intériorisées s'extériorisent au moment de l'accouchement, s'il y en a, avec les efforts de poussée.
Et c'est parce qu'on a mal poussé, entre guillemets ?
Non, pas du tout.
Ça sortirait.
Ouais, il n'y a rien à voir avec ça. En fait, les hémorroïdes, malheureusement, c'est naturel. J'ai envie de dire, on peut pas. En fait, la physiologie de la grossesse, ça impose des changements hormonaux, des changements de circulation. Et souvent, effectivement, ça peut majorer sur des personnes qui ont des terrains vasculaires propices au développement d'hémorroïdes, majorer le fait d'en avoir. Comme parfois, il y a des personnes qui ont un terrain non propices et à développer des hémorroïdes et vont pas du tout en développer pendant la grossesse, l'accouchement et après. Et puis d'autres effectivement sont il y a pas de règle, mais l'état de grossesse majore du coup l'apparition d'hémorroïdes effectivement par des jeux hormonaux et par une vascularisation qui est un petit peu moins efficace que en dehors de la grossesse, parce que l'utérus prend énormément de place et comprime un petit peu certains vaisseaux, certains retours veineux, qui font que parfois, c'est pour ça qu'on a les jambes un peu lourdes, les jambes un peu plus gonflées. C'est dans cette logique où la vascularisation est différente que l'on n'est pas enceinte. Et puis il y a plein de théories autour des. En fait, on n'est pas hyper bon sur les hémorroïdes médicalement parlant. On ne sait pas vraiment. Il y a un ensemble de théories et je pense moi que c'est toutes ces théories qui sont mises bout à bout et pas une théorie précise. Mais il y a vraiment cette théorie vasculaire et la théorie mécanique aussi où effectivement les muscles deviennent un petit peu plus lâches, les vaisseaux deviennent un petit peu plus lâches pendant la grossesse. Et donc c'est cette théorie mécanique qui fait que ça se dilate aussi. Bon, voilà, bref, il y a plein de pistes, mais effectivement, il n'y a pas une définition très précise sur comment apparaissent les hémorroïdes, parce que du coup, on n'a pas non plus de comment ne pas les faire apparaître. Ça, ce n'est pas possible. S'ils sont là, malheureusement, ils sont là. Après, il y a plein de choses pour les soulager. Il y a des choses donc médicamenteuses ou non, donc ils peuvent être gênants pour s'asseoir par exemple, ils peuvent être gênants, on peut les toucher, voilà, ça c'est des choses qui quand ils sont extériorisés ils sont présents, donc ils peuvent être gênés sur les postures quand on s'assoit, mais il y a des choses pour les soulager, donc il y a des anti-inflammatoires qui ne sont pas utilisés pendant la grossesse mais qui peuvent être utilisés après à l'accouchement, des anti-inflammatoires, des crèmes anesthésiantes. Pour ceux qui sont intériorisés, il peut y avoir aussi des suppositoires d'anesthésiants avec de la xylocaïne qui permettent de diminuer la douleur. Et puis surtout, ce qui est important, c'est toutes les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire éviter tout ce qui est constipation, ça c'est le plus important. Parce qu'une constipation va majorer les douleurs et va majorer les poussées au moment de la selle et puis va majorer le fait de les extérioriser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Prendre en charge les hémorroïdes, c'est prendre en charge les constipations. Sauf que les constipations, c'est aussi quelque chose qui peut être très fréquent après l'accouchement, parce qu'on se mobilise un peu moins, parce qu'on a moins, on n'a pas mangé, parce qu'on a peur d'aller à la selle, parce que le périnée, on appréhende énormément le retour de la défécation, le retour des rapports sexuels, le retour de aller uriner, c'est compliqué. Il y a énormément d'appréhension qui fait qu'on retient énormément les selles. Et donc, majore les constipations, et puis aussi le côté médicalisé, dans le sens où les antidouleurs souvent constipent, quand il y a besoin d'antidouleurs, pour les femmes qui ont par exemple eu un accouchement en voie haute par césarienne, souvent il y a des morphiniques qui sont utilisées, les morphines, il n'y a rien de mieux pour constiper, et puis le fer souvent, et puis souvent bah, quand on est enceinte on manque un petit peu de fer, ça arrive très régulièrement, et bah, le fer ça constipe, et donc ça plus ça plus ça plus ça plus ça fait qu'effectivement ça fait partie du lot un petit peu quotidien d'avoir ces constipations associées aux hémorroïdes. C'est pas une fatalité en soi, c'est beaucoup de femmes en ont, donc faut pas se dire qu'on est seul à en avoir. Faut pas hésiter à en parler à son praticien, parce que c'est comme ça qu'il y aura des solutions. Et puis effectivement, après, il y a des solutions du quotidien, donc beaucoup, enfin voilà, boire, s'hydrater énormément, pouvoir discuter de cette appréhension sur le fait d'aller à la selle, ne pas pousser, ne pas attendre, ne pas se retenir. Donc dès qu'on a envie d'aller à la selle, bah, y aller, surélever un petit peu les jambes. Ça, c'est des conseils de toute façon qu'on doit avoir aussi en dehors de la grossesse pour pouvoir libérer beaucoup plus les muscles et détendre les muscles sur cette zone. Et puis manger voilà beaucoup de fibres, tous ces petits conseils, c'est majeur, du coup c'est important pour le bien-être du périnée et pour éviter justement, ou du moins mieux supporter ses hémorroïdes, et puis beaucoup bouger, ça c'est important aussi. Se mobiliser.
Mais avec un bébé.
Eh ben oui, c'est pour ça que ben ça plus ça plus ça fait que
il y en a.
Donc après beaucoup bouger, je parle pas du marathon de.
Mais non, parce qu'on n'a pas fait la rééducation du périnée.
Tout à fait, exactement. mais voilà, au moins faire des petits pas, rien que faire des petits pas. En fait, si vous voulez, le retour veineux, il se fait à partir du moment où on pose la plante des pieds par terre. C'est mécanique, c'est musculaire, c'est mécanique par des réflexes. Ce qui fait que rien que de poser les pieds par terre fait qu'on influe sur le retour veineux. Donc c'est pour ça que des fois, quand il y a des femmes qui accouchent par césarienne, rien que le fait de faire ce qu'on appelle des rebords de lit, donc avoir juste les pieds au niveau du bord du lit et de poser sa plante des pieds sur le sol, favorise des réflexes de retour veineux. Et donc rien que de faire ça, c'est important. C'est pour ça que le repos strict n'est plus du tout... avant, il y avait, médicaments, je parle ça dans les années 80-90, il y avait de repos strict qui était obligatoire pendant la grossesse, quand il y avait certaines pathologies, ou après la grossesse. Le repos strict, ça majore le risque de faire des hémorroïdes, justement, pour pouvoir, ou même des phlébites, donc faire des œdèmes, etc. Alors après, ça peut être juste des rebords de lit, parce que se reposer, c'est aussi chouette après l'accouchement.
Parce que ça, on peut le faire sur notre canapé.
Ah, ou... Complètement. Vous asseyez sur le canapé et voilà, vous faites des petits mouvements de plante des pieds. Donc voilà, vous passez de la pointe au niveau de vos orteils, hop, sur le talon, pointe au niveau des orteils, talon. Voilà, ça peut être des petits exercices qui peuvent être faits si effectivement vous ne mobilisez pas trop. Mais sinon, c'est rien que se balader dans son appartement ou sa maison, entre la cuisine et le salon, ça fait voilà les réflexes de retour veineux.
Surtout si on porte son bébé parce qu'il ne dort pas.
Surtout si on porte son bébé.
Bah, normalement, ouais. On devrait faire des retours veineux.
Tout à fait.
Bah, ça me fait la transition. Comment créer le lien avec son bébé quand on rentre à la maison?
Alors ça aussi, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et on pourrait en parler des heures sur ce lien-là. Alors il faut se dire aussi que c'est important de se laisser du temps pour créer ce lien. Il ne faut pas imaginer, alors ça peut se passer comme ça aussi, mais il ne faut pas se projeter que obligatoirement dès la naissance, il va y avoir ce lien qui va se créer au moment de l'échange de ce premier regard. C'est des choses qui peuvent complètement se faire, mais c'est des choses qui peuvent aussi ne pas se passer comme ça, parce qu'il y a énormément de rencontres différentes. Ben voilà, c'est une rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça a beau être son enfant, son bébé, on ne le connaît pas. On connaît pas son physique, on connaît pas. Il faut s'habituer à ses cheveux, à cette forme d'oreille. Il faut s'habituer voilà à tout cette nouvelle personne qui est en face de vous. Et puis il faut aussi se laisser le temps de découvrir son caractère, parce qu'il y a déjà in utero des tempéraments qui se manifestent. Et puis c'est le cas aussi à la naissance. Et donc ce lien, effectivement, il peut se créer très, très rapidement pour certaines femmes, il peut se créer un petit peu moins rapidement pour d'autres. Il y a une temporalité qui est très différente et qui est totalement physiologique et normale, et c'est pour ça qu'en ce sens, la comparaison est complètement inutile, puisque c'est comme ça pour les liens avec tout le monde. Hein. Il y a des gens en soirée, ils vont rencontrer quelqu'un, ça va se faire en 30 secondes, et puis d'autres, au bout de 3 fois, je ne pouvais pas te piffrer, et puis après... Et puis finalement, t'es ma meilleure amie maintenant. Bref, c'est juste pour dire que les temporalités des rencontres sont toujours différentes. Et donc, il ne faut pas s'imposer un temps. Il ne faut pas se dire, il faut que je sorte de la maternité en ayant un super lien avec mon bébé, il faut simplement mettre des choses en place pour pouvoir créer ce lien. Mais pas se dire qu'il est inné, parce que votre bébé a 3 jours, mais vous êtes aussi une maman de 3 jours. Donc c'est des choses qui s'apprennent, qui s'entraînent, cette création de lien.
Non, mais c'est génial ce que tu dis, parce que ça peut être très culpabilisant.
Complètement.
Quand on pose le bébé et on se dit « Ah, j'ai pas eu l'amour fou qu'on m'a toujours décrit ». Mais non, en fait, c'est possible de créer lien au fur et à mesure et peut-être se dire « Waouh, c'est l'amour fou ».
Bah oui, totalement. Vous êtes une personne à part entière quand vous accouchez, et c'est pas à partir du moment où vous avez un bébé que vous occultez totalement votre personnalité, votre personne. Et voilà, vous allez évoluer, vous allez apprendre en duo, avec ce couple maman-bébé. Et je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça important parce qu'une maman parfaite, déjà, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de définition d'une maman parfaite. Et puis, quelle culpabilisation pour votre bébé d'avoir une maman parfaite. C'est hyper important de pouvoir se dire, ça fait partie de la construction, en fait, d'avoir des doutes, de se dire que ma maman, là, elle sait pas tout. Quel poids sur les épaules d'avoir une maman qui sait tout, et c'est pas possible. Et donc, voilà, c'est en ce sens où c'est important de déculpabiliser, comme tu disais, et de se laisser du temps. Bref, il y avait une longue tirade pour parler de cette temporalité, mais c'est hyper important. Le lien. Et donc, effectivement, après, il y a plein de choses qui peuvent se faire sur le lien. Il peut y avoir, du coup, par exemple, à la maternité, le pot à pot, ça peut être très chouette. Donc, le pot à pot, c'est des moments... Mais c'est très récent qu'on fait du pot à pot, qu'on en parle. Le pot à pot, voilà, c'est simplement avoir son bébé en couche contre soi, sans aucun vêtement, et avoir une couette au-dessus de nous, et puis pouvoir échanger rien que la chaleur corporelle et des regards. Ça peut se faire avec le coparent aussi, mais ça peut être des moments, souvent on propose ça à la maternité pour aider votre bébé à réguler sa température, parce que les premières heures, il ne régule pas sa température de lui-même, ça se met en place lentement. Et donc pour éviter ces chutes de température, souvent le pot à pot est proposé, ou alors on le couvre bien, mais voilà, c'est une méthode qui marche très très bien, parce que notre corps à 37 degrés réchauffe très très facilement. Et puis, c'est pas parce que votre bébé régule super bien la température qu'on n'a plus le droit de faire du pot à pot à la maison. Et donc ça peut être aussi des moments intimes, chouettes, pour créer ce lien. Je pense aussi que pour créer du lien, toujours dans cette même logique, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien vous-même, en fait, pour pouvoir être disponible psychiquement à créer du lien. Il faut être bien, donc prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son bébé et l'importance de créer ce lien, pouvoir lui faire confiance aussi, pouvoir se faire confiance, et c'est hyper impressionnant à quel point les bébés sont dotés de cette capacité de confiance, de cette capacité on est la seule espèce, en fait, où le bébé dépend de la mère complètement. Donc c'est à la fois source d'angoisse, parce qu'on est responsable d'un être humain, mais c'est aussi beau parce qu'il y a des choses qui se font où il ne faut pas culpabiliser et juste s'écouter, et des choses qui se font naturelles, et il n'y a pas besoin de se dire ma voisine a fait comme ça, il faut absolument que je fasse ça. Il faut juste se laisser du temps et laisser les comportements naturels se faire.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur se faire confiance. Alors c'est dur, je pense, quand on attend son premier.
Oui, ça c'est
mais,
sûr.
Mais je bois tes paroles quand tu dis ça, parce que c'est complètement vrai, en fait. Et je pense que la maman, au fond d'elle, sait ce qu'il faut pour son bébé.
Oui, c'est ça. Et puis ce que tu dis là, c'est peut-être pas la même chose pour la voisine. Et justement, c'est hyper déstabilisant de se dire, mais pour moi ça fonctionne, en fait, et ça me va. Mais c'est vrai que quand j'en parlais avec ma copine, c'était pas ce qu'elle faisait, donc peut-être que je suis complètement dans le faux, mais pas forcément, en fait. Et juste
tant que le bébé est pas en danger,
mais complètement. Puis moi je suis de cette école là, en fait. Aujourd'hui on est vraiment sur une surmédicalisation d'absolument tout, et on occulte complètement les liens, la confiance naturelle, en fait. Alors je suis pas non plus de l'école, et ça rentre aussi dans cette dynamique de ce qu'on appelle tout ce qui est inné. j'ai même plus le mot tellement je l'utilise plus, le sens maternel, là, l'instinct maternel. Y a des choses qui sont effectivement des choses qui vous paraissent naturelles, et c'est chouette, mais l'instinct maternel, c'est hyper culpabilisant dans ce sens où il y a cette temporalité qu'il faut mettre en place, c'est qu'effectivement, il y a des choses naturelles qui vont se mettre en place, mais peut-être pas au moment de l'accouchement. Et donc, cet instinct maternel va peut-être pas se manifester à la première seconde où vous allez voir votre bébé. Et puis, c'est au-delà de ça. Pour moi, ce vocabulaire est un peu obsolète, c'est vraiment quelque chose qui se construit, qui s'éduque, qui s'entraîne, ce lien. Et puis ça peut aussi passer par des jeux de regard. Quand je vous parlais du tempérament, il se manifeste les premiers jours de vie, donc rien qu'observer son bébé avec les autres, avec avec le coparent, comment il regarde, comment il réagit, ça c'est des choses qui peuvent aussi se dire tiens, il est plus comme ça, il est plus timide là-dessus. Enfin, c'est des choses qui peuvent aussi aider sur le lien, le regard. Ça peut être aussi des massages. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place par rapport à ça. Donc des massages avec votre bébé. Il y a énormément de ressources littéraires sur les massages. Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre sur les cultures indiennes, les cultures du continent africain. Toutes les cultures ont des visions différentes de ce lien. Et c'est hyper intéressant parce que nous, on a une vision, et même française au-delà du continent européen, assez étriquée de la maternité, du postpartum. Et en fait, rien que se renseigner sur ce qui se passe et sur ce qui est possible de faire dans les autres pays, ça permet de se déculpabiliser et de se dire ah ouais, mais ça c'est super chouette, nous on fait pas du tout comme ça, mais là j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Dans certains pays, tout le monde fait tout pour moi et je me repose. Ou dans d'autres, au boulot 3 jours après, et c'est ok aussi si ça convient à tout le monde. Et voilà, c'est juste qu'il faut en discuter, il faut dégrossir tout ça, et je pense que le lien il se met en place avec tous ces éléments là Et puis aujourd'hui, il y a énormément de ressources humaines, en discutant avec les professionnels, mais ressources littéraires et ressources sur les réseaux. Encore une fois, c'est vrai que c'est des plateformes qui permettent de libérer la parole et de déculpabiliser sur des sujets énormes. Et le postpartum, c'est un sujet qui a besoin d'être dégrossi, d'être déculpabilisé, parce que c'est une période remplie de doutes et d'injonctions. Donc c'est sur ce lien, en tout cas, il y a un besoin de sortir de tout ça et de se faire confiance. J'ai pas de règles spécifiques, mais
complètement. Et puis je pense que c'est aussi c'est le quatrième trimestre, on n'en parle pas ou peu. Donc même dans les cours, on l'a évoqué tout à l'heure, très très peu. Donc en fait, on a plein de questions, on se retrouve toute seule à la maison. Après, il y a le mois où le papa est là pour aider. Mais c'est pareil, parfois la communication, le papa ne peut pas comprendre la détresse de la maman. Et elle ne l'exprime peut-être pas non plus. Donc c'est vrai que c'est bien d'en parler, d'ouvrir aussi les voies pour se renseigner par soi-même en fonction de son ressenti, de son besoin spécifique. Comment s'accorder du temps et se laisser quelques heures son nourrisson pour prendre du temps pour soi.
Oui.
Alors ça, c'est très dur.
Et toujours par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est très dur parce qu'il y a le regard des gens qui est difficile, et il y a son propre regard avec ce qu'on a projeté, en fait, comment on s'est construit, comment nous, on a été élevés. Il y a énormément de comparaisons qui se font. Mais c'est normal de faire ces comparaisons-là. Il faut juste que ça soit pas envahissant, et que ça soit pas un frein, et que ça soit pas source d'angoisse et de mal-être, en fait. Là, on est en train de débattre sur est-ce qu'on a le droit, finalement, ou comment prendre soin de soi, alors que ça devrait être quelque chose de très naturel et sur lequel on se pose pas forcément la question. Et c'est pas parce qu'on vient d'avoir un enfant que toutes les choses que vous aimiez avant disparaissent. Du coup, effectivement, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Déjà, c'est un travail personnel, en fait, sur oui, j'ai le droit de prendre un petit peu de temps pour moi, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui, peu importe ce que je vais dire, c'est un travail personnel. C'est vraiment quelque chose qui doit... Mais c'est aussi intéressant de faire ce travail et de se dire, j'en profite que ce soit cette période-là pour pouvoir me dire, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, et peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis quand même... mon bébé, il a besoin d'avoir une maman sereine, et c'est hyper important. Je ne vois pas comment ça peut être dans le bon sens de ne pas s'écouter et de Enfin, voilà, votre bébé a besoin de vous comme vous êtes avec votre meilleure version pour vous, en fait. Et si vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour aller, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais voir une amie ou aller chez le coiffeur, effectivement, faire des choses pour vous, un cinéma, et aussi avoir une vie de couple, parce qu'effectivement, il y a tout ce côté avec le conjoint ou la conjointe qui est... qui a réorganisé, parce que c'est vrai, il y a une réorganisation qui doit se faire, mais voilà, c'est pas quelque chose qui disparaît, mais c'est quelque chose qui va évoluer, donc qui doit être encore présent. Et puis, il y a plein de choses qui sont... Moi, je pense à ça parce que il y a quelque chose qui se fait assez fréquemment à l'école de sages-femmes, et c'est valable pour toutes les écoles de sages-femmes de France. On a un groupe, et ça, c'est un conseil pour toutes les mamans. Il y a des groupes sur les réseaux, ou alors même à l'école, de mamans qui viennent d'accoucher et qui ont besoin d'avoir une nuit tranquille, un soutien, une sortie au resto, un truc comme ça. Et ben, les étudiants sages-femmes sont très très contents d'avoir ces propositions de garde.
Ça, je ne savais pas. Ouais. On contacte votre école et...
ouais, et on nous relie les... Et moi, j'ai des amis du coup qui vivent que de ça, sur des petits babysitting qui sont très très précoces, parce que voilà, on est plutôt à l'aise avec les enfants, et encore plus avec les nouveau-nés. Et donc, il y a vraiment déjà une envie d'accompagner, et puis une disponibilité aussi, parce qu'on est pas mal, et puis c'est notre domaine, et c'est des choses qui se font. Moi, j'ai pas une amie qui a pas... Même moi, j'ai déjà gardé des petits chats.
Eh ben, tiens, qui, je ne savais pas du tout.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça, voilà, c'est un petit aparté qui peut être sympa pour se faire un resto, se faire une soirée ciné avec...
Donc dans 2-3 mois, je t'appelle.
Exactement. C'est pas moi, ce sera des amis de confiance, mais effectivement, c'est ça peut se faire.
Il y a deux autres à garder, donc je suis pas sûre. Hein.
Non, mais même s'il y a des aînés, c'est vrai que, enfin, en tout cas, les offres de babysitting sont c'est difficile parfois sur des agences. Enfin, ça peut se faire aussi, mais voilà, il y a toute une démarche.
Ouais, et puis il y a la confiance, je pense. Bien sûr. Même là, tu vois, si je vais accoucher de mon troisième, donner en garde à quelqu'un qu'on connaît pas.
Ouais.
Son nourrisson.
Ouais,
c'est dur sur un enfant un peu plus âgé. Alors ouais. Là, le nourrisson, je peux comprendre les mamans qui sont un peu réticentes.
Tout à fait. Ouais. Mais c'est pour
mais
ça.
C'est vrai que ça. Étudiant
sage-femme. Et puis tu sais que c'est arrivé des fois où c'était des étudiantes qui étaient là pour l'accompagnement et qui étaient là à l'accouchement, par exemple.
Ah oui.
Ça peut être. Enfin voilà, puisqu'on est présent sur le bassin d'Ille-et-Vilaine, mais c'est dans ce sens où il y a beaucoup d'écoles de sages-femmes, presque toutes fonctionnent.
Mais c'est des très bons tips.
Ouais. Voilà.
Et j'ai une dernière question, c'est tout ce qui est rituel, rebozo, serrage de bassin, choses comme ça. Ça, quand on rentre chez soi, est-ce que tu le préconises ou pas?
Si ça vous fait du bien, je le préconise. Effectivement, il n'y a pas de contre-indication médicale à faire tout ce qui vous fait du bien, donc à faire effectivement ce resserrage de bassin. Et puis souvent, c'est conseillé, le resserrage de bassin, et puis il peut se faire tout de suite après l'accouchement avec des écharpes.
Oui.
Ou effectivement, avec tous ces rituels dont tu parlais. C'est des choses qui peuvent être vues en amont et qui peuvent être vues aussi sur un projet spécifique de suite de naissance. L'ostéopathe aussi, ça rentre aussi dans ce sens-là, qui peut être vu tout de suite après l'accouchement. Petit aparté, ostéopathe pour vous, mais ostéopathe aussi qui peut être pour le nourrisson, qui peut aider parfois aussi à la mise en place de l'allaitement maternel. Et donc effectivement, tous ces massages, d'une part, comme j'en parlais tout à l'heure, massage ou resserrage de bassin, c'est des moments où on peut, mettre de la musique, faire avec le coparent. Et les sages-femmes, il y a des sages-femmes qui sont formées aussi à différents accompagnements par rapport à ça, différentes méthodes de resserrage de bassin assez classiques, ou alors effectivement avec les méthodes rebozo comme tu disais.
Okay.
Parce qu'on a beaucoup à apprendre des cultures, encore une fois,
prendre
soin de soi, ouais, tout à fait. Donc oui, complètement. Au contraire, et demander ce qui est possible de faire pendant la grossesse, sur le après, et voir, vous renseigner, et puis même au-delà des professionnels, Il y en a plein des bouquins maintenant qui expliquent énormément de méthodes de relaxation, de sophrologie, de lâcher prise. Il y a du yoga aussi postnatal qui est très chouette, à la fois pour la rééducation du périnée que pour des exercices corporels. Voilà.
C'est très bien, merci. Mmh. Une petite dernière question pour la route.
Ouais.
Comment gérer sa fatigue ?
Là, encore une fois, c'est vrai que finalement, toutes ces questions s'articulent un petit peu dans la même dynamique. La fatigue, elle va être évidemment différente d'une femme à l'autre, elle va être différente si c'est un premier bébé que si on en a quatre petits ou quatre à la maison. Elle va être différente si on reprend le travail rapidement ou pas, si on est une femme seule ou pas, si on est isolé, si on a de la famille et des amis disponibles ou pas. Donc il y a toutes ces choses-là, effectivement, de l'aspect personnel qui va majorer ou pas cette fatigue. La fatigue, elle est forcément présente aussi, parce qu'il y a eu, le travail qui peut être plus ou moins long, l'accouchement qui peut être plus ou moins long, la mise en place d'un allaitement ou pas, mais la mise en place de l'alimentation. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place, qui doivent être réorganisées, et donc ça prend une place importante, et les premiers jours, effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa pour un bébé de dormir le jour et de faire la java la nuit. Donc il y a aussi ce côté où il y a parfois des réorganisations à faire dans son quotidien. Ne pas hésiter à, dans le même sens, à se reposer aussi sur le coparent qui, là, a toute sa place aussi et qui fait partie du postpartum, qui a un postpartum aussi. Hein,
oui.
Donc, s'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour les modes de garde et de prendre soin de soi, comme tu disais tout à l'heure, c'est important de les saisir. Et puis, c'est important de discuter aussi avec les professionnels parce que, effectivement, des fois, la fatigue, elle peut être liée à plein de choses différentes. Elle peut être liée parce qu'on ne dort pas, mais elle peut être liée parce qu'on a quelque chose en tête tout le temps qui nous empêche de dormir. Donc, c'est important de différencier aussi si notre fatigue est liée, qui est assez, j'ai envie de dire, naturelle parce que le quotidien est chamboulé, ou alors s'il y a quelque chose d'autre de cette fatigue-là et qu'un épuisement qui peut être écouté pendant une consultation ou à vos amis, à votre famille, ça c'est important. Voilà, parce qu'on parle souvent de la dépression du postpartum, mais la dépression du postpartum, souvent, ça arrive 2-3 mois. C'est pas quelque chose qui, au niveau de la physiopathe, c'est de la physiopathologie, c'est quelque chose qui est assez long dans le postpartum. La dépression arrive souvent 2-3 mois après l'accouchement. Par contre, avant,
quand on reprend en fait le travail.
Tout à fait. Quand on reprend le travail, quand il y a plein de choses qui sont mises en place avec les jeux d'hormones, etc. Par contre, avant, il y a plein de choses. Il y a le baby blues qui peut arriver, qui touche quand même pratiquement une femme sur deux, d'avoir plein de questions. De douter beaucoup, de culpabiliser beaucoup et de ne pas être heureuse véritablement, ça arrive très fréquemment. Et donc tout ça, ça contribue aussi à un état de fatigue morale qui est important de verbaliser et d'identifier. Voilà, c'est vrai que le postpartum, avec la fatigue, c'est un moment où il faut s'écouter et il faut parler avec le coparent ou avec sa sage-femme qui vient ou avec le professionnel avec qui on a confiance. Parce que c'est psychiquement, y a plein de choses qui sont chamboulées. Y a énormément de choses. Hein. Je parle effectivement de baby blues, mais voilà, il y a parfois même des comportements qu'on comprend pas. Aujourd'hui, ça a été identifié. Tout ce qui est phobie d'impulsion, c'est des choses qui sont très très peu développées. Mais c'est des choses qui arrivent et qui, quand on n'a pas de ressources, quand on n'en discute pas, c'est source d'angoisse pas possible, de fatigue. Effectivement, cette dépression du postpartum qui arrive. Et tout ça, pour prévenir le bien-être maternel, c'est prévenir aussi la santé mentale de la maman, du couple. Ça va donc par cette fatigue, par identifier cette fatigue et par des arrangements du quotidien pour permettre de vivre son postpartum de la façon la plus optimale. Mais, encore une fois, communiquer avec les gens qui sont autour de vous, avec les personnes ressources, il n'y a rien de plus important, je pense. Ce qu'on peut se préparer, mais entre se préparer la théorie et quand tout nous arrive en pleine face, des fois c'est pas évident. Comme ça peut très très bien se passer, et j'ai aussi des expériences où il y a ces sources aussi de culpabilisation parfois, ça c'est marrant, mais voilà, c'est écouter.
Merci beaucoup, je pense que c'est le mot de la fin, s'écouter, lâcher prise, et puis en parler autour de soi pour se déculpabiliser et se faire accompagner si vraiment on n'est pas bien. Et comme tu disais, Ça se passe parfois, enfin souvent même, oui, j'allais dire parfois, mais non, souvent très bien aussi. Donc faut se faire confiance et y aller entre guillemets sereinement. Merci encore Marvin.
Merci à toi.
Bonjour Estelle, merci d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast Mininou.
Bonjour Pauline, merci.
Pourrais-tu te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille ?
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Estelle. Moi, je viens au départ du monde de l'entreprise. J'ai 10 ans d'expérience dans ce monde de télécom surtout. J'étais juriste et puis ensuite DRH d'une entreprise de 180 personnes qui s'est fait racheter par une autre et encore par une autre. Voilà, donc pour terminer chez SFR. Donc, une vie bien remplie, engagée en tant que RH ensuite. Hein, et puis un jour, je deviens maman. Je suis maman de trois petits, enfin maintenant grands hein, quand même, un petit peu plus grands, de 7 ans bientôt, très bientôt 7 ans, 10 ans et puis 12 ans pour ma grande et bientôt 13 finalement. Donc voilà, donc bien chargée. Et aujourd'hui, donc j'ai créé ma société depuis plus de 8 ans, qui est une société qui s'appelle Boost, qui est un centre de formation et de coaching qui accompagne les entreprises dans la parentalité au travail finalement. J'accompagne les salariés notamment à concilier vie pro, vie perso à travers donc des programmes un peu divers et variés. Et puis voilà, et ma société fait d'autres choses, d'autres accompagnements, mais qui vont nourrir aussi celui-là, tels que le management transverse, l'efficacité, etc. Mais on en reparlera, je pense.
Oui, voilà. C'est très intéressant en entreprise et c'est aussi le thème du podcast Mininou.
Oui,
ça tombe bien.
Oui, ça tombe bien.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui est le retour à la maison avec son bébé. Alors c'est une phase très importante parce que parfois on se sent un petit peu seul et on va l'aborder sous différentes questions. La première, c'est comment on peut s'organiser en amont de la naissance pour aménager son petit coin et avoir un retour plus serein à la maison.
Alors, comment on peut s'organiser? Je pense que la réponse, je vais essayer de la faire générale et en même temps, elle est spécifique à chacun d'entre nous. Ça veut dire que on peut avoir un profil très organisé avec le souci du détail et donc on aura peut-être besoin de lister les choses, tout simplement, avec un écrit pour être sûr de rien oublier. Donc ça, c'est un premier profil. Donc là, on va lister des petites choses. Voir se renseigner peut-être sous les aspects médicaux, pourquoi pas, je sais que certaines prennent même la température de la pièce, hein, je l'ai fait pour mon premier enfant, donc le deuxième en général on le lâche un petit peu, hein, mais voilà, donc ça pourquoi pas, donc ça c'est le premier profil, donc plutôt liste, détail, pourquoi pas aller se renseigner auprès de la pharmacie, de la médecine, de son petit réseau au niveau un peu plus médical, parce que on a peut-être peur, tout simplement, et on pense beaucoup à la sécurité. C'est finalement le plus important, en général. On aurait d'autres profils qui vont plus avoir besoin, peut-être, de discuter avec d'autres parents pour avoir des conseils avec sa maman ou si on en a. Voilà, donc plus besoin d'être rassuré au niveau émotion, relation, tout simplement. Et donc là, je vais vous donner un conseil pour ce profil-là, c'est essayer de se dire, de créer un espace bébé, vraiment dédié au bébé, quel que soit son cadre. Alors, on peut avoir la chance d'avoir une petite chambre pour le bébé, avoir un espace vraiment dédié à lui ou pas. Et si c'est pas le cas, d'essayer de le créer même dans son salon. Voilà, d'avoir vraiment cette petite organisation, ce petit décor qui est une sorte de petite bulle, une bulle de calme. Je pensais à mon autre idée, justement, un autre conseil, c'est toujours préparer le petit sac qui va bien pour le bébé. Et là, j'invite, pourtant j'aime pas trop la surconsommation, mais j'invite à avoir un petit double du petit bavoir, du petit biberon qui est toujours prêt dans le petit sac bébé. Le petit livret, pourquoi pas, de médical. Enfin, voilà, d'avoir quelques petits trucs, la petite tétine, évidemment, pour ceux qui ont... Alors, même si on est contre, vous allez voir que... De temps en temps, on n'a pas trop le choix. Donc, on a plein de petites idées avant, mais vous avez bien compris que finalement, on est face à notre bébé hein, qui a ses propres spécificités et besoins. Donc, ça, c'est le profil un petit peu qui aura besoin de relationnel, de conseils. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher ces conseils à travers des podcasts de Mininou, bien entendu, mais peut-être voilà, à travers vos proches qui vraiment, franchement, c'est l'expérience qui vont faire que votre organisation de votre maison en amont va être le plus optimal pour vous possible en écoutant bien tous les bons conseils. Donc le mien, c'est bien l'espace bébé au calme, le petit sac bébé toujours prêt, ce qui va vous éviter toujours une surcharge mentale en disant « Ah, est-ce que j'ai bien pris ça, la petite bavette, le petit bavoir, etc. » Ça, c'est vraiment la petite clé. Le petit pot en plus au cas où. Et puis aussi, le petit warning peut-être, je peux donner, c'est attention à la cuisine, tout simplement. Parce que la cuisine, c'est l'endroit où il y a le plus d'accidents possibles. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite sécurité à prévoir pour tout le monde, je pense, hein, quel que soit notre profil. C'est bébé dans la cuisine ou attention, warning, aux casseroles qui dépassent ou des petites choses comme ça, ça arrive malheureusement. Donc ça c'est un petit conseil qu'on m'avait donné. Donc j'ai essayé toujours de faire attention à cet endroit, espace cuisine bien fermé quand bébé, surtout quand il commence à marcher. Voilà. Et dernier profil peut-être qui peut apparaître aussi par rapport à l'organisation de la maison, c'est le profil créatif. Donc n'hésitez pas à aller chercher vos talents sur la créativité, faites-vous confiance pour être vraiment créatif et créer cet espace finalement à la mesure de votre bébé par rapport à lui, sa petite couleur qu'il a, vous sentez. Voilà, tout en connaissant votre bébé, vous créerez aussi une organisation qui ira bien pour lui. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce thème.
Merci, et merci de rappeler aussi que les accidents domestiques sont plus courants que ce qu'on pense avec les bébés.
Oui.
Donc, pas mettre le transat sur la table, surtout si on a déjà des enfants qui pourraient pousser le transat. Voilà, des petites attentions comme ça où il faut faire très attention.
Et ne jamais le changer non plus, quand on le change sur la petite table à langer et s'en aller, en pensant qu'il ne peut pas tomber. Et pareil pour le bain, bien entendu, on ne le laisse même pas une seconde dans le bain. Ça me fait penser, parce qu'on me l'a tellement dit, je préfère le répéter, même si on va dire bien sûr, ça fait jamais mal.
Voilà. Oui, tu as complètement raison. Et comment gérer le moment des biberons ou de son allaitement si on allaite? Est-ce que c'est possible d'anticiper, dans un cocon à ce moment-là?
Oui, enfin, alors moi j'ai un conseil d'une très bonne copine et que j'ai suivi. Alors ça a peut-être choqué hein, certaines mamans parfaites, mais moi elle m'avait dit, alors le biberon, alors sachant que j'ai aussi le conseil allaitement, parce que j'ai allaité moi les trois premiers mois, trois mois et demi, mais d'abord, côté biberon, quand on est passé au biberon, elle m'a dit surtout température ambiante. Voilà, donc je ne sais pas, ça peut choquer, je sais, mais moi je l'ai fait et je vous avoue que ça m'a permis de d'être beaucoup plus sereine et c'était beaucoup plus facile. J'avais toujours la petite bouteille d'eau qu'il faut dans le petit cosy, dans le petit sac bébé. Et c'est vrai que c'est quand même bien plus pratique, ça évite les brûlures et comme ça, il est toujours prêt et le bébé s'habitue très très bien. Il n'était pas du tout en souffrance, je ne crois pas en tout cas, d'avoir des biberons à température ambiante tout simplement.
Très bien. Et j'ai une amie qui a fait exactement comme toi et ça s'est très bien passé pour ses trois enfants.
Bon, tu me rassures. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on m'a toujours... Ça dépend, hein, on verra nos auditrices si elles sont pour, contre, on pourrait presque... Mais franchement, moi j'avoue, j'ai fait ça pour les trois et vraiment, ils vont très bien. Et ça s'est très très bien passé. Donc ça dépend bien sûr de l'enfant et de vous-même. Faites comme bon vous semble, bien entendu, aucun jugement par rapport à ça. Concernant l'allaitement, alors l'allaitement, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir dire? Oui, alors déjà, c'est rien qu'à la clinique ou à l'hôpital, je vous conseille vraiment d'être conseillé vivement, hein, parce que c'est merveilleux, bien entendu, de pouvoir allaiter, mais je vous avoue, je n'ai jamais autant souffert les deux premiers jours. Voilà. Donc, bon, on ne m'avait pas bien dit ce qu'il fallait faire et j'aurais bien aimé. Voilà, tout simplement, il faut retirer hein, à la main, hein, enfin, entre guillemets, le lait un petit peu surplus parce que sinon, c'est vraiment, ça peut faire très, très mal. Ensuite, par rapport à l'allaitement, c'est vrai que, en tout cas pour celles qui en ont envie, encore une fois, on peut en avoir envie ou pas, aucun jugement. Ce qui compte, c'est vous aussi, hein, bébé et vous. mais c'est plus, je pense qu'il faut faire attention à une petite chose, c'est de bien se nourrir, nous, en tant que maman. Un peu plus encore, hein, alors allaitement ou pas, vous me direz, mais voilà, une bonne nourriture assez saine, bien sûr, pas d'alcool, pas de... je pense que ça, c'est important, évidemment, ça paraît... Et puis, en plus, la fatigue est un peu plus présente quand on allait, ça, c'est sûr aussi, donc il faut quand même... De bons fruits, légumes, des bonnes petites choses pour soi. Et après bébé se servira avec plaisir, ça c'est certain. peut-être essayer de mettre en place quand même une sorte de régularité. Ça, c'est si vous pouvez, parce que c'est plus simple aussi pour vous. Parce que c'est quand même très prenant, mine de rien. C'est toute une nouvelle organisation. Moi, je vous avoue, 3 mois et demi, j'étais bien. Et après, j'ai un peu, entre guillemets, retrouvé un peu plus de liberté. Et je me suis plus retrouvée aussi un petit peu en tant que femme, mais voilà, j'ai adoré, bien entendu, cette période.
Et comment on peut prendre du temps pour soi? Parce que c'est une période où là on rentre, alors peut-être que le papa ou l'autre maman n'est pas là. Comment prendre du temps pour soi?
Oui, alors cette fameuse question, la gestion du temps, le temps pour soi, alors ça c'est une question pour le coup qui revient beaucoup plus en coaching, donc là je serais beaucoup moins, j'aurais une réponse moins personnelle, hein, mais plus de coach. Du temps pour soi, finalement, effectivement, c'est le sujet, hein, vraiment de, bon, je vous dis, hein, de, je sais pas moi, bon nombre, 70% peut-être des coachings pratiqués sur les retours de congés maternité parentaux. Donc, vous imaginez bien que c'est présent. Alors, pourquoi? Parce que finalement, quand en plus on travaille, on a la casquette de la professionnelle, on a la casquette de maman, a priori, mais alors celle de femme, bon. Et je dirais même pour les hommes, ça peut jouer aussi, hein, de plus en plus, hein, mais je vais parler un peu plus aux femmes. Alors, la première chose, je pense, pour pouvoir se permettre de prendre du temps, encore faut-il se protéger. Donc, moi, j'utilise un outil un triangle, en fait, on appelle ça le triangle de Cartman en coaching. C'est un triangle qui permet de se dire, tiens, à un moment donné, je vais essayer de me protéger moi-même pour pouvoir me permettre ensuite d'aller vers ma puissance. Alors, ça veut dire quoi? Alors, on interroge bien sûr le coaché en lui disant, bah tiens, quelle protection pourrais-tu mettre en place pour pouvoir prendre du temps, hein? En amont, bien sûr, on a stretché un petit peu l'objectif, ça veut dire combien de temps? Parce que chacun a sa propre réponse. Ça serait quand le meilleur moment pour toi pour prendre du temps? Déjà, rien que ça, c'est une vraie question et chacun peut y répondre à sa façon. À partir du moment, le petit warning, c'est aussi d'être smart, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, spécifique et temporel. Voilà. Parce que sinon, on vise l'Everest et puis en fait, on n'y arrive pas. Hein, il vaut mieux commencer par le tour du pâté de maison. Donc, quel est le meilleur temps pour toi? Quand est-ce que tu veux le prendre? Voilà, première question. Et ensuite, voilà, j'arrive enfin sur mon triangle, pardon, hein, grosse aparté, le fameux triangle. Donc, quelle protection tu pourrais mettre en place pour pouvoir prendre ce temps? Alors, bah, réponse, ça peut être, et là chacun, hein, je vous invite à faire déjà un petit peu avant que je réponde, mais chacun peut faire ce travail, parce qu'on n'a pas les mêmes protections. Hein. Certains vont être happés par, leur sœur, qu'ils appellent tous les jours, leur mère. Tiens, il y a peut-être une protection à mettre en place. Oser dire, tiens, de telle heure à telle heure à cette personne, je ne serai plus disponible, par exemple. Ça peut être en termes de protection, certains sont happés par les mails, par des coups de téléphone incessants. Ça pourrait être comme réponse en protection, c'est oser se mettre en mode avion de telle heure à telle heure. Ça ne veut pas dire toute la journée, évidemment, parce qu'on n'y arrive pas. On est tous un peu addicts de tout ce qui est écran, mais c'est pour ça que je vous parlais vraiment d'objectifs atteignables. Une autre protection possible, c'est avoir une communication, oser communiquer aussi de façon adaptée à différents interlocuteurs. Hein, j'en parlais un petit peu en introduction, on est tous très différents par rapport à nos besoins, notre communication. Donc, en fonction du besoin de l'autre, comment moi j'adapte ma communication pour dire « Ok, j'ai besoin d'avoir un peu de temps, tel par exemple le lundi à 18h, j'ai besoin de ce temps-là. » J'ai besoin d'eux, hein. C'est de la communication non violente, c'est pas tu, c'est j'ai besoin d'eux. Et ça change tout déjà dans les rapports. Donc essayez vraiment avec bienveillance d'adapter vos protections à vos interlocuteurs si besoin. Et puis ensuite, bah, une fois qu'on a mis en place ces protections, on va pouvoir se permettre. On va pouvoir se permettre de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Avec, on peut se ressourcer au niveau de simplement de la tête, tout simplement, hein, neuronale. J'ai besoin de me nourrir vraiment intellectuellement. Ça peut être une ressource pour certaines personnes. J'ai besoin, ça peut être un autre besoin, c'est un besoin de cœur. J'ai besoin, je sais pas, d'aller faire du cheval tous les dimanches. Voilà, c'est ma passion. J'ai besoin de ça. Ou j'ai besoin d'aider les autres parce que ça me ressource, en fait, d'aider les autres. Voilà, donc ça, c'est plutôt côté émotion, le cœur. Ou le corps. J'ai besoin de courir tous les lundis matin de 8h30 à 9h. J'ai besoin de marcher chaque soir de 19h à 20h. Le corps. J'ai besoin d'aller à la salle de sport, tel ou tel ou tel. Je dis toujours un délai hein, derrière. Je ne sais pas si tu vois, Pauline, mais c'est important parce que je suis persuadée que si tu ne mets pas de délai, il n'y a rien qui se passe, en fait. Et ça, je challenge pas mal sur ça. C'est quand, et quand, et encore quand. Hein, parce que pas de délai, pas de projet, il n'y a rien.
Bah, on procrastine.
Hein, je pense. Hein, parce que... Et par contre, technique quand même du petit pas. Parce que, encore une fois, si je veux faire du sport tous les jours, 2 heures par jour, bah, peut-être que ça va pas... Alors du coup, je ne vais pas être content. Et en plus, mon estime, elle va baisser parce que je n'ai même pas réussi à mettre en place les challenges souhaités. Donc attention à votre écologie, hein, le bon temps pour vous. Et commençons déjà par une fois par semaine, peut-être, pour le temps pour soi. Donc ça, c'est les permissions que vous pouvez vous accorder. Vous pouvez enfin, une fois que vous avez mis en place ces protections, permissions, à arriver en fait à la fameuse puissance. Hein, nous, on appelle ça les 3 P. Hein, on arrive à la puissance une fois que j'ai mis ça en place. Bah, effectivement, si vous arrivez, par exemple, à prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir devenir actrice. Et ça change tout. On n'est plus victime de dire « j'ai plus le temps, j'y arrive pas, c'est pas possible ». C'est à un moment donné, je reprends le lead, je deviens moteur de mon équilibre vie pro, vie perso. Et je prends, et du coup, je deviens cette actrice-là et je transforme cette période en opportunité. Quelque part, c'est grâce à mon enfant que je considère qu'il faut aussi que je m'occupe de moi. Donc, c'est intéressant parce que si moi, je suis épanouie, mon enfant va le ressentir. Alors, ça fait un peu cliché, mais vous le savez de toute façon. Je confirme ce que vous savez.
Oui, complètement. Et puis, la communication non violente, comme tu disais, c'est aussi la base. Et même en parler avec son conjoint, j'ai besoin que tu gardes le bébé peut-être une demi-heure, comme tu disais, pour aller marcher ou m'aérer ou voir une amie pour papoter. C'est toujours très ressourçant après quand on l'a fait.
Oui, et merci Pauline, parce que tu me fais penser à un autre point qui est essentiel, hein, mais pour prendre du temps pour soi, là je vous ai parlé, je vous ai beaucoup responsabilisé entre guillemets par rapport à cet outil-là. Ensuite, c'est oser vraiment demander de l'aide. Oser vraiment demander de l'aide. On en avait parlé, je pense, au premier podcast, c'était de se dire, attention dans le donner-recevoir. Recevoir, oser demander de l'aide me permettra de recevoir aussi. Hein, on donne beaucoup, hein, c'est des périodes où on donne beaucoup. Maintenant, à un moment donné, j'accepte de recevoir. Donc attention là aussi. Hein. Et donc oser aussi déléguer. Hein, on n'est pas en toute puissance, on a le droit de déléguer et du coup d'accepter que celui qui fait a raison.
Il laisse sa place au conjoint ou à la conjointe, en effet.
Exactement. Ouais. Et si on ne l'a pas, de déléguer un tiers. Hein, une tierce personne. Je pense que ça aussi, c'est un point clé vraiment de l'harmonie et ça, c'est un point clé pour votre équilibre, pour que vous puissiez prendre du temps pour vous.
Et ça fait une très bonne transition ce que tu dis avec ma question suivante, qui est comment et par qui se faire accompagner si on se sent vulnérable. Parce que en effet, prendre du temps pour soi permet aussi d'une sorte de prévention de tout ce qui est dépression postpartum et de mieux se connaître pour savoir où est notre point de rupture afin de pas en arriver là, quoi.
Je pense que justement la maternité nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses, hein. On grandit énormément à chaque enfant. Je trouve que c'est une belle c'est un bel épanouissement vraiment personnel aussi, hein. On apprend beaucoup sur nous-mêmes pendant ces périodes-là, justement. Et c'est pas un mal, en fait, d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, tout simplement, même en prévention, pourquoi pas. Hein. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus... On a tous nos psys aux États-Unis, hein, c'est rigolo. Hein. En coaching, nous, on nous impose hein, d'être suivis par un psychologue ou psychiatre. Enfin, voilà, ou faire une psychothérapie. Enfin, voilà, on nous pousse énormément à le faire. Et ce qui nous permet, effectivement, c'est une formidable aventure, hein, quelque part, d'aller chercher un petit peu de mieux se connaître. Et finalement, pour être plus aligné par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce qu'on donne, l'éducation, je pense que même j'encouragerais presque d'effectuer un jour cette démarche pour chacun de nous.
Oui, j'allais même rajouter que dans cet épisode, on va entendre Marvin qui est sage-femme.
Oui.
Et lui milite pour un accompagnement, notamment dès les premiers mois de grossesse, les 3 mois qu'on passe sous silence, entre guillemets, pour accompagner tout ce que tu dis. S'il y a des choses qui sont ancrées en la maman et qui peuvent ressortir lors de cette période qui est quand même unique.
Oui, alors, oui, effectivement, et je pense que, alors, attention aussi à la culpabilité en se disant, oh là là, il faut absolument que je sois accompagnée parce que peut-être que j'ai encore des... Voilà, donc moi, je ne veux pas du tout aller trop là-dessus, mais c'est à un moment donné de se dire, tiens, et si j'avais envie de... voilà, d'explorer un peu plus que j'ai vécu, comment je peux peut-être être plus épanouie par rapport à certaines choses, voilà, vécues. Il y a différents types d'accompagnement finalement. On a l'accompagnement effectivement psychothérapie, donc qui est un peu plus lourd, on peut le dire, hein. C'est des accompagnements qui durent très longtemps, et ça dépend vraiment de la vie de chacun, hein. On a aussi un accompagnement, moi il y a une coach Boots qui travaille beaucoup là-dessus sur 2FT, donc ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc ça c'est si on a vécu quelques traumatismes à une période, et donc c'est un système de tapotement en fait, où ça permet de, c'est très très puissant, hein, petit tapotement où le coach, enfin l'EFT, hein, parce que c'est même plus, elle est coach mais elle pratique par exemple elle de l'EFT, c'est vraiment reconnu, hein, et certifié, hein, c'est attention aussi aux arnaques entre guillemets, hein, il faut vraiment prendre quelqu'un de certifié bien entendu, et voilà, et elle va à travers plusieurs séances accompagner la personne à revivre entre guillemets ce choc, mais surtout l'enterrer ce choc, hein, et permettre de se dire allez, je continue par rapport à ça. Donc c'est un accompagnement intéressant, hein. Et puis on a le dernier évidemment que j'ai envie de prôner aussi, c'est le coaching, hein, le coaching. Juste peut-être un petit mot sur qu'est-ce que c'est, parce que on en parle, on est presque tous coach aujourd'hui. Donc il y a plusieurs types de coaching, pareil. Je pense que c'est important aussi à bien vérifier les certifications des coachs, si vous en voulez, et si vous voulez un jour vous faire accompagner par un coach. Le coach n'est pas un formateur, le coach n'est pas un consultant, le coach n'est pas non plus un psychothérapeute. Le coach va faire travailler le coaché sur une situation, une demande, à un instant T, donc un instant présent. Et par rapport à cette demande, ce besoin de grandir, de travailler sur tel ou tel sujet, je prendrais, je sais pas, par exemple, tiens, j'ai envie de faire une mobilité ou de prendre tel ou tel poste, ça peut être ça, hein, ou j'ai envie de bien vivre mon retour congé maternité en entreprise, être plus sereine, c'est peut-être plus lié à notre sujet. Quoique, hein, c'est pour ça que j'ai pris les deux exemples, quoique.
On peut vouloir évoluer après. Ouais.
Exactement, c'est pour ça que finalement c'est un peu volontaire, mais voilà, et le coach à travers plusieurs séances, alors ça dépend de l'objectif, une fois tous les 3 semaines, 1 mois, va accompagner la personne pour avancer, hein, mais concrètement, hein, sur le sujet. Et du coup, bah, espérons, normalement, en général, la personne est toujours très satisfaite de pouvoir faire ses fameux petits pas, mais c'est vraiment un investissement, hein, et en temps, un certain budget aussi. Donc voilà, il faut être prêt. Hein, mais j'ai envie de dire que déjà rien que d'appeler X ou Y personne pour se dire tiens j'ai envie de grandir ou voilà d'avancer sur cette demande, bah, 50% déjà du chemin est fait parce que c'est une prise de conscience, donc c'est énorme.
Merci beaucoup Estelle, parce que toutes ces informations ça donne plus de billes aussi pour se préparer, et puis il y a des petites astuces ou des petites choses à mettre en place que l'on peut faire très concrètement si on le sent, et puis après des renseignements à aller piocher à gauche à droite comme tu disais pour se faire accompagner par le professionnel que l'on jugera le plus utile pour soi en fait, tout ça pour bien anticiper le retour à la maison avec son bébé. Merci encore.
Mais avec plaisir.
Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je t'en remercie grandement. J'espère que ces témoignages te seront inspirants et te donneront des pistes pour vivre sereinement ta grossesse dans ton entreprise. Le mois prochain, nous découvrirons d'autres récits enrichissants. Bonne grossesse et à bientôt !